La clope, les mégots, les sèches, les tiges, les blondes et puis les puffs, les pushs. Chaque année, le mois sans tabac rappelle à quel point arrêter de fumer reste un défi collectif. Si la cigarette classique recule, une nouvelle génération de produits nicotiniques a pris le relais et crée de nouvelles addictions chez les jeunes. On en parle ce soir avec nos deux invités qui sont là et qui font vivre le mois sans tabac dans le Loir-et-Cher et dans le Blaisois. C'est Stéphanie Fonbonne et Amandine Chevalier. Et bonjour Stéphanie et Amandine.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous à Studio Zef pour parler donc ensemble du mois sans tabac et plus largement du tabac. Première question donc pour commencer cette émission dans cette lorgnette. Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable dans le pays, en France. Combien de personnes il tue encore chaque année ?
On est sur 75 000 personnes qui décèdent chaque année à cause du tabac, dont 6 000 qui sont des fumeurs passifs, donc des personnes qui ne fument pas, mais qui vont respirer la fumée en fait, des fumeurs, malheureusement.
Peut-être pour commencer, je vous laisse vous présenter. J'ai dit vos prénoms et vos noms de famille, mais je ne vous ai pas présenté. Peut-être Amandine, pour commencer, comme on a entendu ta voix.
Donc effectivement, je m'appelle Amandine Chevalier. Je suis chargée de prévention et de formation à Opelia VRS 41, qui est une association qui regroupe trois pôles, le XAPA, le CARUD et le service de prévention, dont je fais partie. Donc on va dans tout le département, de la maternelle jusqu'au lycée et bien plus encore. On va faire des programmes de prévention et de développement de compétences psychosociales. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du mois sans tabac, qui est une période très développée pour nous. On intervient vraiment partout. On a été par exemple au Leclerc de Blois pour la 10e édition du mois sans tabac, qui était un très gros événement. Mais on va vraiment partout où il y a besoin. Voilà.
Et quand ce n'est pas le mois de novembre et que ce n'est pas le mois sans tabac, en quoi constitue ton travail ?
Eh bien, on va dans les écoles pour effectivement parler de prévention. Exemple, on a un programme qui s'appelle Oscar, qui est à destination des CM2. On va parler effectivement des écrans, mais aussi on va commencer à parler des drogues, tabac, alcool, chicha et même cannabis, parce qu'on sait que les premières expérimentations vont arriver au collège. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils aient des bagages pour arriver au collège et le savoir dire non. Le développement des compétences psychosociales, plus on le développe tôt, mieux en fait on est
armé,
voilà, tout à fait, pour plus tard. Voilà.
Et Amandine, tu es accompagnée de Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour. Stéphanie Fonbonne, je travaille à l'hôpital de Blois dans le service d'addictologie où est développée en effet la consultation de tabacologie pour tout public.
Et depuis combien de temps tu y travailles ?
Donc la tabacologie, elle existe bien avant moi, puisque voilà, ça a été développé par le service de pneumologie, par un pneumologue, et ça s'est vraiment développé après par la suite. Moi, j'y travaille depuis 2010, et en fait, on est associé maintenant à l'addictologie depuis 2013 à peu près. Et c'est pour ça que maintenant, la tabacologie est plutôt rattachée, de façon tout à fait logique, à l'addictologie, mais avec les consultations spécifiques tabaco.
Pour commencer, on va débuter cette émission avec des questions simples et remettre un peu les bases. Dans le tabac, qu'est-ce qu'on y trouve ?
Dans le tabac, on y trouve 7000 produits chimiques, détectables évidemment, hein, puisque voilà, y a des moyens de trouver les différents produits dans la fumée de cigarette. Dans les 7000 produits chimiques, on estime qu'il y a à peu près 70 cancérigènes. Et le goudron, c'est ce qui est le plus connu, mais c'est surtout le monoxyde de carbone dû à la combustion qui fait aussi des ravages, hein, puisqu'on a une intoxication qui est quand même assez forte et qui permet également, même dans mes consultations, de pouvoir tester ce monoxyde de carbone et avoir aussi, grâce à ça, une valeur un petit peu diagnostique aussi sur le besoin nicotinique, puisque quand on prend beaucoup de monoxyde de carbone, on prend aussi beaucoup de nicotine et ça traduit en fait le niveau de dépendance physique lié à leur consommation à chacun. C'est pas que le nombre de cigarettes en fait, hein, il y a aussi la façon dont on tire dessus et le monoxyde de carbone va en fonction également de ce tirage, ce qu'on appelle l'autotitration. Voilà.
Et le tirage, en quoi il est plus ou moins...
Alors, le tirage, il va être plus ou moins important en fonction du besoin. Hein, le corps va... déjà, quand on est jeune, il n'y a pas de dépendance physique au départ. Hein, donc, les jeunes, ils ne vont pas devenir, on dit, accros, voilà, au tabac tout de suite. La molécule qui est responsable de la dépendance physique, c'est la nicotine. La nicotine, elle est introduite dans le corps. C'est ce qu'on appelle le produit psychoactif, hein, puisqu'il va aller agir au niveau du cerveau. Et quand il est au cerveau, il ne va pas rester comme un électron libre. Ça va se poser sur des récepteurs existants pour une autre molécule, hein, mais qui, du coup, va profiter de la place libre. Et malheureusement, quand les personnes vont commencer à fumer un peu plus un peu plus régulièrement, et puis qu'ils vont augmenter leur quantité, ils vont apporter un petit peu plus de nicotine. Et là, la place ne sera plus suffisamment importante. Et donc, le cerveau va s'adapter et va créer d'autres récepteurs. Mmh. Voilà. Et ces nouveaux récepteurs, c'est ce qu'on appelle les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, hein, puisque ça part de premiers récepteurs qu'on a tous depuis la naissance, mais qui ne sont pas faits normalement pour recevoir cette nicotine.
Et ils sont faits pour quoi, normalement, ces récepteurs ?
Il y a plusieurs fonctions. C'est un peu compliqué, le cerveau. Je ne vais pas pouvoir développer tout ça, mais en tout cas, c'est ce qui permet vraiment de faire un équilibre psychique, d'être en capacité en fait aussi de gérer la vie tout simplement. Hein. Si on n'avait pas ces fameux récepteurs d'acétylcholine, on serait en difficulté. Ça permet aussi la libération de dopamine, d'endorphine, de sérotonine. Alors il y a d'autres biais pour libérer aussi la dopamine, l'activité physique, quand on fait des choses qui nous plaisent. On a d'autres moyens naturels, mais c'est vrai que... Ça développe d'autres récepteurs. En fait, on modifie. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Des fois, les fumeurs n'ont pas toujours ce recul par rapport à ça. Mais en fait, ils construisent des récepteurs pour une molécule qu'ils vont acheter. Donc, en fait, on perd cette autonomie. Et c'est ça, la dépendance physique. C'est-à-dire qu'après, on est obligé de continuer à consommer ce produit pour pouvoir satisfaire finalement ces récepteurs. Parce que si on ne les satisfait pas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du manque. Mmh. Et c'est ce qu'on appelle le manque physique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la dépendance physique.
J'ai appris un mot, c'est le craving. C'est comme ça qu'on appelle le manque.
Oui, en français, ça s'appelle pulsion fumée, très forte. Hein, c'est un besoin impérieux que les gros fumeurs vont avoir, surtout le matin au réveil. Hein, qu'est-ce qui se passe sur ces récepteurs ? C'est qu'ils se vident la nuit. Hein, quand ils ne fument pas la nuit, ça se vide. Et donc le matin, le pied par terre, ils ont envie de fumer. Mais ce n'est pas vraiment une envie, c'est un besoin. Mmh. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le craving. Donc besoin impérieux, ça veut dire s'ils renourrissent pas ces récepteurs qui se sont vidés la nuit, ils vont avoir un gros manque, un manque physique, ils vont être nerveux, pulsion à fumer, alors grosse pulsion à fumer, ce qu'on appelle craving, irritabilité, nervosité, anxiété, ça peut être la déprime, augmentation de l'appétit, de perdre la concentration, ça peut être que vos troubles du sommeil aussi, quand toute la journée, les gens ils galèrent quand ils ne fument pas. Mais le craving, c'est ça, c'est le matin, on a besoin impérieux. Ou alors si on est piégé à une réunion, qu'on n'a pas fumé pendant un laps de temps de 2 heures, de 2-3 heures, ce n'est pas prévu, parce que les fumeurs, ils se connaissent très très bien, ils savent à quel moment il faut aller fumer pour éviter le besoin. Et donc, s'ils sont pris au piège, ce n'était pas prévu dans leur planning, ils peuvent avoir un craving. Voilà, un craving peut arriver.
Je lisais en préparant l'émission que l'effet de la nicotine au cerveau monte en 7 secondes. Donc, ce qui paraît incroyable. Oui. Je vous propose, avant de continuer, qu'on écoute les témoignages de 3 fumeurs fumeuses, puisque je me suis dit, on a des expertes autour de la table, mais il manque les premiers concernés. Donc, on a interviewé 3 fumeurs fumeuses d'âges différents. Alors, il n'y a pas des jeunes, et je pense qu'on va beaucoup parler des jeunes, certainement dans la deuxième partie de cette émission. Mais ça nourrira notre débat. C'est un petit audio qui dure 8 minutes, et on se retrouve juste après.
Eh bien, Patrice, 55 ans, je suis blésois depuis maintenant une trentaine d'années.
Et fumeur depuis quand ?
Oh, fumeur depuis l'âge de 14 ans à peu près, avec deux arrêts du tabac. J'ai arrêté une première fois pendant 6 mois et j'ai repris bêtement. Et puis après, j'ai réussi à arrêter pendant 2 ans et demi. Et très bêtement aussi, j'ai repris en me disant, je vais fumer une cigarette de temps en temps. Puis finalement, maintenant, je suis revenu à mon niveau d'avant. Le truc, c'est que j'ai essayé la cigarette électronique depuis 7 ans maintenant, dans l'objectif d'arrêter complètement le tabac, mais je fais les deux. Et ça fait 7 ans que ça dure, donc je fume beaucoup moins de tabac, mais je continue, j'ai toujours besoin du geste et de l'odeur du tabac.
Alors, là, je me présente, je m'appelle Pierre et je dois fumer depuis mes 11 ans, donc ça doit faire environ un peu moins de... à peu près 19 ans. Oh, c'est les trucs de jeunesse pour faire un peu l'intéressant, pour goûter, et puis finalement, bah, tu restes dedans, quoi, après. Je pense que c'est une habitude, c'est un geste. C'est un geste qui revient en pensant que ça enlève le stress, alors que c'est complètement faux. Mais c'est un geste qui revient et c'est plus une gestuelle qu'une réelle envie, je pense. Et c'est quelque chose qui est complètement inconscient et qui ça en devient un rituel. Et dans le temps, il est plus difficile de se séparer d'un rituel. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une addiction.
Est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter de fumer ?
J'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai tenté avec les cigarettes électroniques. Mais au bout de 6 mois environ, ça revient. Il suffit que l'été passe. En été, les terrasses, les copains, les petits ballons. Et puis, du coup, bah, on se remet à fumer, quoi.
Je m'appelle Isabelle, j'ai 62 ans. Je suis fumeuse depuis l'âge de 13 ans.
Comment est-ce que tu as commencé et pourquoi ?
Avec mon frère, les amis de mon quartier. Quand on était enfant, ben, on s'amusait avec ça. On fumait, c'était bien, on faisait les grands. J'aime fumer, j'aime la cigarette, j'aime me détendre, j'aime passer une soirée avec des amis, fumer une clope, voilà. Je fais partie de ces, je sais pas si je peux dire que c'est une génération, mais bon, où on fumait quand on se réunissait, et puis voilà.
Quoi. Les copains, la famille, parce que dans ma famille, mon père fumait à la maison, j'avais une sœur aînée qui fumait aussi, voilà, donc... Le tabac, dans les années, on va dire, 80, 85, c'était pas la même chose à l'époque. Hein. On fumait dans les maisons, dans les voitures, à l'époque, dans les restaurants, les trains, ben, voilà, partout. Bon, puis à l'âge de 14 ans, c'est l'âge où on essaie de découvrir des trucs avec les copains. Tiens, essaye, et voilà. Et puis, bon, effectivement, je trouvais ça cool, comme beaucoup à l'époque. Et donc quelques cigarettes de temps en temps, c'était même pas tous les jours. Puis bah après l'addiction quoi.
Avant je fumais, je faisais pas gaffe. Maintenant il y a plus de campagnes de publicité, voilà, il y a plus d'affichage contre le tabac. On sait que le tabac est mauvais. Avant on le savait mais pas de la même façon. Voilà, nos parents fumaient, on fumait. Moi j'ai connu fumer partout, le bus, l'avion.
Alors j'avais essayé des patchs, bien sûr. Mais ça m'a pas convaincu. Alors à la fois où j'ai tenu 2 ans et demi, j'étais très content parce que c'était quand même long. Voilà, c'était juste les patchs. Essayer de changer mes habitudes, avoir moins les automatismes de la cigarette. Quand j'avais envie de fumer, je sais pas, je buvais un verre d'eau, j'allais marcher. Même, ça m'est arrivé de faire du sport, quelle folie. Mais voilà, c'est ça.
Quand je me suis retrouvé hospitalisé, donc obligation de ne pas fumer. Donc le plus longtemps que j'ai tenu sans fumer, ça a pu être un mois. Voilà. En contrepartie, j'allais courir pour... parce que j'étais un petit peu agacé. Voilà. Mais j'ai vite repris.
Quels sont les plus gros freins à l'arrêt ?
La disponibilité. C'est comme tout, en fait. Une addiction reste une addiction. Et c'est la disponibilité qui fait... et aussi la volonté. Il y a les deux, en fait. De se dire que rien que dans la ville de Blois, par exemple, il y a une dizaine de bureaux de tabac dans Blois même. Il y a ça et aussi la volonté. La volonté, elle ne vient pas parce qu'on se dit, bon, bah, en fait, maintenant, au bout de 20 ans, cramer pour cramer, il y a cette volonté-là aussi. Qui rentre en considération. C'est surtout la disponibilité, c'est comme avec l'alcool ou d'autres alternatives pour, entre guillemets, soit se donner un genre, soit fuir. C'est la disponibilité qui fait.
Est-ce qu'il y a encore des clichés sur les fumeurs ?
Oh oui. Maintenant, on est carrément des pestiférés. Parce que même aux endroits où c'est autorisé, certaines personnes se plaignent. Alors que nous, on ne se plaint pas si quelqu'un fume pas. Alors je vois pas trop pourquoi on se plaint de nous. Si quelqu'un fume pas, je ne vais pas lui dire « Allez, fume !» Alors qu'il me laisse fumer tranquille. Je suis une grosse fumeuse.
À 20 ans, effectivement, c'était cool, les gens qui fumaient. tous les gens que je connaissais fumaient, en gros. Maintenant, c'est ringard. C'est ringard de fumer du tabac. Ce que je trouve très bizarre, c'est... les jeunes, maintenant, ils sont plus à la cigarette électronique ou les puffs, les trucs comme ça. Donc, ils ont même pas... pour moi, ces choses, c'est pour arrêter le tabac. Enfin, je comprends pas qu'on puisse commencer à fumer une cigarette électronique, quoi, sans avoir fumé du tabac avant. Et puis, c'est sans doute moins mauvais que le tabac lui-même, mais il n'y a pas que des bonnes choses dedans non plus.
Je pense les campagnes de publicité, les enfants qui soient plus touchés par tout ça, le mal que peut faire le tabac, la dépendance surtout, parce qu'elle n'est pas seulement sur la santé, elle est aussi sur le porte-monnaie. Et je sais que le tabac est mauvais, j'aurais aimé que mes enfants ne fument pas, mais ils ont été élevés avec deux parents fumeurs. Un sur deux est fumeur. Au fil du temps, je me rends compte, le souffle, tout ça c'est difficile, mais après l'addiction est trop grande. Ne jamais commencer, moi je dirais. Ne jamais commencer pour ne pas avoir cette dépendance.
Les nouvelles générations, ceux qui maintenant ont 14-15 ans, si on les voit fumer dans la rue, ça va être beaucoup plus choquant. Mais j'ai l'impression que ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années en arrière, c'était beaucoup moins choquant. Mais j'ai grandi quand même dans la période où on pouvait encore fumer dans les restaurants ou dans les repas de famille, on fumait beaucoup. Du coup, je pense que le regard, il a changé par rapport à ça, où maintenant... on se rend pleinement compte que c'est dangereux, à l'époque déjà aussi, mais maintenant on se rend pleinement compte que c'est dangereux, et ça vaut pour tout, pour plein de phases, pas que la cigarette, mais pour d'autres choses.
J'ai déjà été voir les spécialistes en tabacologie. L'envie est là que quelques secondes, il suffit de la laisser passer. Donc je pense que la dépendance, elle est physique aussi, dans le gestuel, mais aussi physique. Le corps, il réclame cette nicotine que le corps... Je pense que c'est la drogue la plus insinueuse. Voilà. Parce que... on peut en acheter au bureau de tabac, donc je trouve que c'est la drogue la plus insinueuse.
Un grand merci à Patrice, Isabelle et Pierre. Donc, vous l'aurez compris, des gros fumeurs qui ont témoigné pour cette émission. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce qu'ils disent tous les trois. Peut-être, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce qu'ils ont évoqué dans leur témoignage ?
Eh bien, moi, c'est par rapport au repas de famille. C'est vrai que maintenant, c'est inversé. Souvent, il y avait plutôt tous les fumeurs dehors et il restait deux personnes à la table. Voilà. C'est et maintenant, vrai. C'est l'inverse. C'est plutôt deux fumeurs dehors et plutôt le reste à la table. C'est vrai qu'il y a des choses qui se sont inversées. On parlait des jeunes. Je crois que c'était Patrice ou Pierre, je ne sais plus, qui parlait effectivement du fait de voir des jeunes de 14-15 ans fumer. Actuellement, c'est plus choquant qu'il y a 20 ans à peu près. On a des chiffres. Début des années 2000, un jeune, enfin, les jeunes de 17 ans, 1 sur 2 fumaient quotidiennement. Là, on est sur 17%, donc ça fait moins d'un jeune sur 5 qui fume quotidiennement à l'âge de 17 ans. Donc effectivement, je parle toujours de la cigarette, mais effectivement, ça a changé, ça s'est inversé la tendance. Isabelle parlait qu'on était des pestiférés. C'est vrai que de plus en plus, là, on a vu la loi qui est passée début septembre, comme quoi autour des lieux, des écoles, etc. Moi-même, ce matin, j'étais à Romorantin, je n'avais pas encore vu. Effectivement, c'est bien... peint par terre, comme quoi il y a écrit « zone non-fumeur », etc. Donc de plus en plus, effectivement, il y aura de moins en moins de zones fumeurs. C'est vrai, effectivement.
Et ça a forcément un impact sur la consommation. S'il y a moins de lieux publics où on peut fumer, ça a forcément un impact sur la consommation.
Effectivement, oui.
Stéphanie ?
Si je trouve toujours intéressant les témoignages, parce que même dans mes consultations, c'est qu'en fait, quand on entend les fumeurs, les premiers concernés par la dépendance, qu'elle soit physique, psychologique ou comportementale, en fait, quand on les entend parler voilà, de leur l'initiation, de l'âge, comment eux, ils se voient aussi dans leur dépendance, les impacts, que ça soit... dans leur entourage, comment c'est perçu, mais aussi les attentes psychologiques. En fait, quand on regroupe tout ça, ils ont déjà les réponses. Mmh. Et je trouve ça intéressant parce que tout est déjà dit. Et en fait, je trouve que l'accompagnement pour ça, il est intéressant parce qu'en fait, ça met en lumière leur perception, ça met en lumière ce qu'ils mettent en évidence là juste dans une phrase. Et en fait, en consultation, moi, je décortique un petit peu tout ça. Et encore tout à l'heure, avant de venir, j'étais en consultation, il y a une personne qui m'a dit « Vous êtes en train de m'ouvrir les yeux ». Parce qu'en fait, c'est un produit qui est rentré tellement tôt dans l'âge des fumeurs. J'entendais 12 ans, 13 ans.
12 ans, 14 ans.
Oui, 14 ans. Mais... C'est vrai qu'en tout cas, c'est une partie... Bon, tout à l'heure, ma collègue nous disait qu'elle intervenait pour les compétences psychosociales. Et c'est vrai que c'est super important parce que, en effet, le collège, c'est les représentations, c'est le déguisement. On a entendu ça aussi. C'est une façon aussi d'exprimer des choses. C'est ce qu'on appelle la communication. Enfin, moi, j'aime bien parler de ça parce que c'est mettre en évidence aussi que ça peut être une communication non verbale. Donc, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte de moi? Comment je me perçois et comment je veux être perçue par les autres? Donc oui, ça peut être avec la relation avec les autres, faire le grand, appartenir à un groupe. Bon, ça, c'est vrai que c'était un petit peu plus, fort il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a moins de cette pression sociale puisqu'on est plutôt dans ces ringards, etc. Mais les jeunes, ils ont besoin aussi de s'identifier à quelque chose. Et si malheureusement, dans leur entourage, tout le monde fume, ils vont s'identifier aussi à des personnes qu'ils aiment et à des images fortes. Hein, on en a encore au cinéma, les héros. On sait qu'il y a tout le côté lobby aussi du tabac qui fait que ça donne une image encore, malheureusement, par quelques biais, encore faibles maintenant, mais quand même encore présents dans la société. On a encore des films aujourd'hui qui sortent avec des fumeurs à l'écran. Donc, ils essaient toujours de marteler un petit peu le côté positif, même si, quand on entend les gens parler du tabac, faut jamais commencer. Mmh. Ah oui, il faut jamais commencer. Et puis, bon, il y a d'autres choses aussi que j'ai entendu parler de volonté. J'ai entendu parler aussi qu'il y a des répercussions, mais il y a aussi des attentes. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important de décortiquer un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent du tabac pour mieux comprendre, pour qu'eux-mêmes se comprennent mieux et puissent remplir leurs besoins sans forcément passer par le tabac. D'autres ressources, et c'est ça en fait qui est aussi travaillé, dans, je pense, sur les compétences psychosociales, c'est d'apprendre justement à être autonome. Ne pas aller chercher, que ça soit le tabac ou autre produit, pour assouvir ses besoins, en fait, tout simplement. Mmh. Voilà.
Et dans les témoignages, on entendait parler du sport, par exemple, qui peut être un bon moyen de pouvoir accompagner le sevrage. Est-ce que vous auriez d'autres conseils? Quels sont les principaux conseils à donner pour accompagner un sevrage? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme ressources?
Être à l'écoute aussi, demander de l'aide, ne pas hésiter à demander de l'aide, c'est vraiment très important. Plus on est accompagné, mieux ça marchera.
En effet, je lisais en préparant l'émission que quelqu'un qui cherche à arrêter de fumer en étant accompagné a beaucoup, beaucoup plus de chances d'y parvenir et c'est normal, c'est logique. On entend aussi dans les témoignages l'évolution des lois, des législations autour du tabac. Amandine, tu parlais de cette loi autour des parcs, des espaces publics, plages, écoles, etc. Il y a une proposition de loi en ce moment d'un député écolo Nicolas Thierry qui proposait une proposition de loi pour interdire le tabac aux personnes qui deviendront majeures en 2032. Et on l'entendait aussi dans les témoignages, cet aspect un peu générationnel. C'est une génération passée, et est-ce qu'il ne faudrait pas interdire à une génération future? Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de proposition?
Moi, j'avais déjà vu l'information en Australie, c'est pour les personnes nées en 2009, ils ont fait cette loi, ça a l'air de fonctionner, après je ne sais pas du tout, je n'ai pas de point de vue concernant effectivement cette loi, je ne sais pas si elle passera, est-ce que ça sera possible, est-ce que c'est une solution? Il y a eu beaucoup de choses de proposer. Est-ce que ça marchera? Point d'interrogation.
En fait, ça fait partie du programme déjà national de prévention de lutte contre le tabac. On y est dedans parce que c'est de 2023 à 2027. Et en fait, l'objectif, c'est justement prôner la génération sans tabac.
D'accord.
Alors, on dit génération sans tabac, il y a un petit une petite modestie par rapport à ça, parce qu'en fait, on dit 5% de fumeurs en 2032. Mais oui, c'est aller... Normalement, le truc, c'est d'être sur une génération sans tabac pour 2032. Je trouve qu'on est en chemin quand même, parce qu'avec le mois sans tabac depuis 2016, il y a quand même... Les gens ont vraiment adhéré, je dirais, à ça. Tous les ans, il y a des personnes qui font une démarche aussi, parce qu'il y a aussi de l'entourage. Ça peut être des enfants aussi qui disent « Bon, bah, c'est quoi ce mois sans tabac? Tu ne veux pas arrêter de fumer ?» Ils ont aussi de la prévention à l'école, donc ça fait rebond aussi chez les parents. Il faut savoir quand même qu'on avait pratiquement 30% de fumeurs adultes. Je ne sais pas, c'est les chiffres que j'avais. Plus de 30%, on était même à 32% il y a quelques années. Et petit à petit, ça fait déjà un moment maintenant qu'on est en dessous de, des 30%, et sur les 18-75 ans, si je ne me trompe pas, on est à 25% de fumeurs par rapport à 32% il n'y a pas si longtemps que ça.
La cigarette classique recule.
Une petite parenthèse, évidemment, par rapport au Covid, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu des fausses croyances aussi par rapport au Covid. Bon, c'était un peu... On était tous un petit peu quand même dans une situation un peu particulière, donc on va mettre ça en parenthèse. Mais c'est vrai qu'on est en réduction, autant chez les adultes, et c'est encore un peu plus flagrant, je dirais, chez les jeunes, quoi.
On est là pour parler du mois sans tabac. Très concrètement, où est-ce que, surtout pour toi Amandine, où est-ce que vous vous rendez durant ce mois de novembre? Tu as commencé à en parler tout à l'heure pour faire de la prévention.
On a les centres commerciaux, effectivement, Auchan, Leclerc, etc. On a été un peu partout. On a aussi les lycées, beaucoup en lycée, en CFA. On essaie d'avoir le maximum de personnes. On est aussi au centre de radiologie. On a aussi des actions là-bas. On a vraiment des actions en centres sociaux aussi, les centres sociaux. Vraiment là où en fait on peut accueillir tout le public. Parce qu'on pense vraiment que ça touche vraiment tout le monde. Donc dès que les portes sont ouvertes, souvent on nous accueille très très bien et bien au contraire, ils sont très contents qu'on arrive avec un stand, des jeux, des informations, des quiz. On a même fait un escape game avec des jeunes. Donc c'est très très chouette. C'est vraiment des moments de partage, des moments où on peut vraiment discuter sans jugement. On n'est pas là pour leur dire « Ah ben c'est pas bien, vous fumez ». C'est vraiment pas du tout notre optique, c'est justement les accompagner. Pourquoi vous fumez? Est-ce que vous savez ce que ça vous apporte? On a même des petits tests pour savoir effectivement à quelle dépendance ils appartiennent, etc. etc. Donc vraiment, c'est là, c'est vraiment pour de l'information et les aider. Et combien de témoignages on a? On a arrêté grâce au mois sans tabac en 2016, 2017, 2018, ou alors des rendez-vous. Cette année, à Leclerc-Bois, on m'a dit rendez-vous dans un an. J'en suis sûre que j'aurai arrêté de fumer et je voudrais vous le dire dans un an. Donc c'est vraiment des très beaux témoignages.
Tu as apporté avec toi l'enveloppe que vous
Tout
donnez aux personnes qui sont intéressées.
C'est ça.
Dedans, il y a une petite roulette. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, effectivement, dans le kit, en fait, il y a souvent... Les personnes nous expliquent « je veux arrêter de fumer par rapport à l'argent, par rapport aux gains, parce que ça coûte très très cher, c'est vrai effectivement, et puis la santé ». Donc dans le petit kit, vous avez une petite roulette pour expliquer si je fume 2 cigarettes par jour, combien ça me coûte par jour, par semaine, par mois, par année et 10 ans. Et ainsi de suite, jusqu'à 40 cigarettes, il me semble, si je ne me trompe pas. Et c'est là qu'en fait, on le sait que ça coûte cher, mais de visualiser sur la roulette, on peut se dire là, actuellement, quelqu'un qui fume en gros un paquet par jour, on est à peu près à 12,50 € le paquet de tabac, on est à peu près à 4 500 € à l'année. Donc c'est vrai qu'on se dit, ah oui, quand même, c'est ce que je dépense à l'année. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose d'important pour eux de visualiser. Et aussi, on a un petit kit sur l'arrêt. C'est un petit livret pour arrêter, parce qu'on sait que si on arrête pendant 30 jours, on a 5 fois plus de chances que ça perdure.
D'où l'importance du mois des 30 jours.
Tout à fait, c'est ça. Et puis, c'est une communauté aussi, le mois sans tabac. C'est vraiment de s'aider, d'être... C'est ça que les personnes, en tout cas, témoignent, c'est d'être une communauté. Parce qu'il y a quand même le numéro 3989, pardon. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Et dans ce petit livret, il y a qu'est-ce que ça fait, par exemple, le premier jour, le deuxième jour, etc. Qu'est-ce que ça fait sur mon corps? Qu'est-ce que ça fait aussi dans l'esprit? On peut se noter aussi des choses, etc., etc. C'est vraiment très, très, très chouette. Et on a même 10 jours avant la préparation. Parce que des fois, on arrête du jour au lendemain, il n'y a pas de problème, il y en a qui arrivent. Des fois, il y en a qui ont besoin d'une préparation. Et du coup, de lire ça, de se dire, bon, bah, allez, dans 10 jours, j'arrête. Voilà, j'ai ça. Donc, c'est vraiment très chouette.
On l'a compris, vous en parliez tout à l'heure des différentes formes de dépendance au tabac. Il n'y a pas que la dépendance physique. Donc, on n'est pas égaux face à l'addiction. Est-ce qu'on est égaux face à la possibilité de s'en sortir et à la possibilité de réussir de se sevrer?
Bah, par rapport, je dirais que c'est vraiment une démarche personnelle. On ne peut pas obliger quelqu'un à arrêter de fumer, c'est-à-dire quelqu'un qui va être dans l'obligation d'arrêter de fumer parce que bon, on a découvert une maladie, le médecin va lui expliquer qu'il faut arrêter de fumer, vous n'avez pas le choix, il faut arrêter. Moi, je vais recevoir cette personne-là, elle peut arrêter de fumer parce qu'elle a entendu, elle est obéissante à son docteur et elle veut mettre quand même toutes les chances de son côté pour réussir à maintenir une bonne santé, bien que ce n'est pas son choix. Donc en fait, il y a un travail, même si on est dans une obligation, on est obligé à un moment donné, si on veut réussir son sevrage, de se réapproprier son sevrage tabagique. Si on ne passe pas par là, on va en fait travailler, comme quand on a envie de ne pas faire quelque chose parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce qu'on ne voit pas l'utilité ou parce que ce n'est pas le moment et c'est moi qui choisis. Et donc si les personnes ne se réapproprient pas leur sevrage dans cette obligation, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas, ils vont rentrer en bataille contre eux-mêmes. Ça va créer de la frustration, ça va créer de la nostalgie, et à un moment donné, ça fragilise les sevrages, parce que, en fait, ils n'ont pas décidé. Mmh. Voilà. Donc, ils vont être plus en difficulté, je dirais, pour maintenir, même s'ils arrivent à arrêter, hein, c'est pas ça le problème, mais à maintenir leur sevrage sur du long cours. Voilà, ça va peut-être marcher parce que, là, ils sont en soins, un cas particulier, il y a peut-être des douleurs, il y a peut-être un inconfort qui font que, et puis il y a l'effet sidération qui dure quelques mois. Hein, donc, j'y toucherai plus, c'est terminé, j'ai pas besoin d'aide, Donc, il y a l'effet sidération qui est là, on le voit beaucoup en cardiologie, par exemple, ça. Et donc, c'est vrai qu'il faut travailler avec ces personnes-là en partenariat. Hein, c'est vraiment une collaboration. Hein, on n'est pas... c'est le patient et nous, on est le soignant. Et nous, on sait, ils ne savent pas. Mm. Hein, ce que je disais tout à l'heure, ils ont déjà toutes les infos. Quand on les entend parler, ils ont déjà les choses en eux. Ils ont repéré, ils ne sont pas bêtes. Hein, ils savent que c'est nocif, que c'est difficile à s'en sortir. Ils ont fait des tests, ils ont fait des expériences. Hein, on dit quatre tentatives pour arriver à la bonne. Hein, donc, il y a des gens qui arrivent du premier coup, bien sûr. Il y en a d'autres qui ont besoin de plusieurs tentatives. Ils réapprennent, en fait, à agir différemment, pour leur vie, de faire des choix aussi. C'est tout un travail, je dirais, d'analyse, de connaissance de soi. Donc, ça dépasse, je dirais, c'est pas juste j'arrête le tabac, c'est aussi beaucoup de visibilité aussi dans son ensemble. Voilà. Mmh. On parlait du sport. En fait, c'est comment je prends soin de moi. En fait, la plus grande question, quand les gens ils disent « Oh là, j'ai trop de choses en tête, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, vous vous rendez compte, il faut que je fasse attention à mon alimentation, et puis en plus, là, il faut que je fasse de l'activité physique, et puis en plus, là, j'ai... » Et je dis « Mais la seule question à se poser, c'est quoi ? Si je fais ça, est-ce que je prends soin de moi et comment... qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour prendre soin de moi ?» Et en fait, c'est juste la question à se poser. Tout le reste, c'est prendre soin de soi, de toute façon. Mmh. Donc, on part de quelque chose d'un peu plus, je dirais... distant par rapport à ça pour pas rester borné sur chaque critère et avoir l'impression qu'on est un peu entre guillemets en surmenage.
C'est un combat.
Mmh. Et oui, c'est ça. Mmh.
Je vous propose de faire une pause musicale. On écoute Aldebert et la complainte de l'ex-fumeur et on continue notre discussion juste après.
Affranchi comme une carte d'un timbre sur l'épaule droite, c'est la traversée du désert. Je viens d'écraser la dernière, comme un grand coca glacé sous la canicule d'été qu'on vous empêcherait de boire et sur lequel on peut s'asseoir. 24 heures sur 24, la blessure arbitraire, la convoitise opiniâtre d'une bouffée salutaire. J'ai beau mâcher des trombones et tordre des clous à cette idée qui se cramponne, j'aimerais tordre le cou. C'est décidé, j'assume, déterminé, j'arrête.
Je ne fume plus une cigarette. C'est sympa de m'accompagner dans le renoncement du vice. Tout le monde m'a félicité, à part Philippe et Maurice, qui m'attendent au tournant quand j'irai en cachette, désespérément craquer l'allumette. 1, 2, 3, 4 jours sans tabac. C'est pas beaucoup certes, mais dans 26 ça fera un mois. On me trouve légèrement irritable et je me demande bien pourquoi. Sans doute parce qu'il est ratable, j'ai défenestré le chat. C'est décidé, j'assume. Déterminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette. Adieu ma blonde, je t'aimais bien, mais tous les deux c'est plus possible. Je suis venu te dire que tu t'en vas, notre amour est nuisible. C'est écrit en gras sous le dromadaire orangé qui regarde narquois les caisses de l'État engrangées. Ça part en fumée. Et ça part en fumée. Quelle tristesse, c'est pas gai, tous ces terres pures qui s'infiltrent. Sans vouloir mégoter, ma vie ne tient plus qu'un filtre. Je regrette le temps jadis où j'occupais mes doigts et trouver consistance sans forcément prendre du poids. À combler le vide d'air par le contenu du frigidaire, je céderai mon trône pour un mégot, mon royaume pour un chameau. Et si je déclarais forfait en plein milieu du match, personne pour me dire échec et patch. La 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 la. Plus une cigarette. Arrête.
Vous êtes toujours dans la lorgnette, on parle du mois sans tabac avec Stéphanie Fonbonne de l'hôpital de Blois et Amandine Chevalier, chargée de prévention et d'addiction chez Opelia VRS. On a évoqué donc le tabac en général, on a évoqué le mois sans tabac, mais pas vraiment les propositions de soins très concrètement que vous faites notamment à l'hôpital. Stéphanie, est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, les consultations de tabacologie se passent donc dans notre service. Nous, on est situé au 9e étage de l'hôpital. Donc, je disais tout à l'heure que c'était dans le service d'addictologie, mais il y avait vraiment une consultation de tabacologie à part. Et c'est de la consultation individuelle. Alors, on a essayé justement, dans le cadre du mois sans tabac, à un moment donné, quelques années en arrière, de faire des groupes pour pouvoir proposer justement plus de consultations dans ces 30 jours du mois sans tabac et du mois de novembre. Mais en fait, les gens, ils accrochent pas parce qu'ils ont chacun leur histoire. Alors, j'ai quelques personnes, des fois, qui demandent des groupes de parole, mais ça se fait beaucoup pour l'alcool. Mais pour le tabac, disons que les personnes sont peut-être plus dans une demande, je dirais, d'une prise en charge individuelle. Voilà. Ils n'ont pas forcément envie de raconter leurs difficultés. Et puis, pour un démarrage aussi de sevrage. Même, je dirais, des fois, j'ai des demandes de consultation de couple. C'est bien et c'est pas bien, parce qu'en fait, la parole n'est pas toujours libre. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans ces consultations-là, alors on peut quand même venir en couple, si ça permet de se coacher mutuellement. Au contraire, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Mais en tout cas, c'est une démarche individuelle. Et il ne faut pas non plus, dans cette consultation de couple, qu'il y en ait un qui crée la difficulté à l'autre. Alors ça reste, même si c'est une démarche collective, comme là, dans le mois sans tabac, il faut plutôt être acteur positif, on va dire. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir à son niveau. C'est pas parce que l'autre a rechuté ou c'est pas parce que l'autre est en difficulté que je me dois me mettre en difficulté, parce qu'on a dit qu'on arrêtait ensemble. Donc ça, c'est aussi peut-être la lorgnette. Peut-être voir les choses d'un autre angle aussi par rapport à ça. C'est une démarche personnelle, même s'il y a des obligations derrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une démarche personnelle avec tout ce que je peux mettre en place pour réussir à arrêter de fumer. Et c'est vrai que l'accompagnement, ça augmente réellement les chances de réussir un sevrage. Quelqu'un qui va faire du sport avec un coach sportif va être plus assidu
et va pas faire des fausses manips, voilà, sur le matériel, hein, pour ses muscles, pour l'échauffement, tout ça, c'est important d'avoir les bonnes infos. Et ben, je dirais que nous, on est un peu des coachs. Voilà, on est là plutôt pour les coacher, les encourager, mais aussi remettre la bonne les bonnes informations aussi, parce qu'il y a beaucoup de on dit, j'ai su que mon voisin, ça s'est passé comme ça, etc. Les pages, j'ai essayé. Hein, y en a un qui a dit ça dans le témoignage.
C'est sur quoi je voulais vous amener.
J'ai essayé, ça ne marche pas chez moi.
La vapote.
La question, elle n'est pas là. C'est oui, j'ai essayé les patchs, mais déjà, est-ce que j'ai mis le bon dosage? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est à cause de quoi? Est-ce que c'est uniquement parce que les patchs n'ont pas fonctionné? Est-ce qu'il y avait aussi un problème par rapport au positionnement? J'étais prêt, j'étais pas prêt, en fait, j'avais pas envie. Côté psycho, donc. Mmh. Et il y a aussi la dépendance comportementale. Il n'y a pas une dépendance, il y en a trois. Mmh. Donc, c'est un travail, je dirais, en profondeur sur soi, mais pour travailler les trois dépendances en même temps. On ne peut pas en laisser un en rade.
Physique, comportemental
et psychologique. Donc, on peut le décrire après par la suite, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas une dépendance, c'est trois. Bon, on peut hein, tout seul le faire. Il y en a plein qui le font tout seul et sans rien. Il y a la dure. Bon, après, il faut réussir aussi à accepter les effets secondaires. Hein. Si on n'a pas peur de prendre du poids, ou si on n'a pas peur voilà, d'être irritable pour son entourage, ou de mettre en fragilité un jour un peu fatigué, un peu moins motivé, la rechute peut arriver plus facilement si on n'est pas bien dosé et qu'on aurait besoin de mettre des substituts. Après, il y a plein de gens qui n'ont pas de dépendance physique, mais qui sont que dépendants psychologiques, ou que des... La dépendance comportementale et psychologique, elle est valable pour tout le monde. Il y a juste la dépendance physique, on l'a ou on ne l'a pas. Elle est petite, elle est moyenne, ou elle est et grande, ou il n'y en a pas.
Comment on le détecte?
Si, quand j'arrête le produit, si je ressens un manque physique dans la liste que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a parlé du craving, irritabilité, nervosité, anxiété, la déprime, voilà, trouble de la concentration, si, prise de poids, hein, ça, c'est un critère comme un autre, hein, eh bien, si on a des signes qui sont différents d'habitude, dire je sens, ou quelque chose qui se passe en moi, je me sens un peu plus tendue, etc., j'arrive pas à comprendre pourquoi, c'est un manque physique. Physiquement, je ressens quelque chose. Donc ça veut dire qu'on a développé des récepteurs qui ne devraient pas être là, et en fait, ils ne sont pas satisfaits. Ils sont juste en train de vous signaler que, bah, elle est où notre nourriture? Elle est où notre nicotine? Donc, si on ne leur donne pas la nicotine, eh bien, est-ce que réellement, quand je dis oui ou non à la cigarette, à quel point je suis manipulée par mes récepteurs? On peut prendre l'expérience, je vais faire mes courses et je n'ai pas mangé. Je mets quoi dans mon caddie? Du sucre, du gras, je grignote. On est moins raisonné. Et ben, c'est la même chose avec les traitements. On est plus raisonné si on est bien dosé. Si on remplit 100% l'ensemble des récepteurs, c'est ce que j'explique comme information, hein, c'est, voilà, c'est physiologique. Hein. Si on remplit 100% l'ensemble de ces récepteurs, on n'est plus manipulé. Et là, je fais un choix vraiment personnel.
Quels sont les autres substituts possibles? On a parlé des patchs, on parle souvent de la cigarette électronique comme façon et qui a été créée normalement pour aider à arrêter. Patrice, là, nous dit par exemple que ça fait 7 ans qu'il mixe les deux, cigarette classique, cigarette électronique. Est-ce que c'est une vraie solution, la cigarette électronique?
Ça peut l'être. Ça dépend après des personnes. Il faut aussi tester. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « j'ai essayé une première, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas du tout aimé la fumée, le goût, etc. » Et j'ai beaucoup de personnes, il y a aussi la résistance, la puissance en fait de la cigarette électronique. Donc il y a des fois des personnes qui ont besoin de 2, 3, 4 cigarettes pour trouver sa cigarette électronique.
C'est comme le dosage des patchs, c'est toujours des histoires de critères peut-être qui ne sont pas adaptés et qu'il y a juste à réajuster pour que...
Il faut tester quoi. Il faut tester effectivement si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Mais effectivement, c'est un peu l'histoire des patchs, savoir si c'est bien dosé, etc. C'est un peu la même chose pour la cigarette électronique. Après, si la personne, elle a déjà diminué, c'est déjà bien. L'idéal, effectivement, c'est d'arrêter totalement. On sait que, par exemple, quelqu'un qui arrête totalement de fumer, même si elle a fumé pendant 15, 20, 30 ans, ses poumons, au bout de 15 ans à peu près, ils redeviendront comme des poumons de non-fumeurs. Voilà.
Donc on n'est pas cramé comme on pouvait l'entendre dans les témoignages.
Alors... Si on continue de fumer, là, malheureusement, effectivement, il continue quand même à fumer des cigarettes en même temps. C'est bien d'avoir diminué, bien sûr, mais il n'y aura pas cette possibilité à ce que les poumons se régénèrent, on va dire. Donc, mais il y a cette possibilité-là, et des fois, c'est vrai, de savoir ça, ça peut aider à la motivation en se disant, bon, j'ai quand même, dans 15 ans, j'aurai quand même plus les risques que j'avais quand je fumais. Voilà. Mais la cigarette électronique peut être un bon moyen, effectivement, à l'aide à l'arrêt au tabac. C'est pas pour autant qu'il faut commencer la cigarette électronique quand on a 12, 13, 14 ans. C'est ce que je dis à mes jeunes. C'est pas pour autant, c'est ce qu'on parlait effectivement dans les témoignages. Non, la cigarette électronique, ce n'est pas pour... c'est vraiment pour substituer d'une personne qui souhaite arrêter de fumer.
Est-ce que l'aspect socialisation dont tu parlais, Stéphanie, voilà, ces anciennes générations où on fumait, c'était cool, ça faisait adulte. Est-ce qu'on a décalé cet aspect de sociabilisation par la clope avec les puffs, la cigarette électronique?
Bon, en tout cas, on sait que les jeunes aujourd'hui ont l'expérimentation du tabac et l'expérimentation de la vape, aujourd'hui, c'est vraiment en baisse. Mais de façon très significative, hein, parce qu'on était, alors là c'est de mémoire, hein, 17% d'expérimentation. Expérimentation, 17%, excusez-moi, de tabac quotidien. Aujourd'hui, on est à 15-16%, donc c'est quand même une belle réduction. On peut que mettre, en fait, c'est un débat, je dirais, qui persiste, hein, entre un outil de sevrage, la vape, et un effet possible de passerelle, je dirais, chez les jeunes. Donc c'est un débat qui est pas, je dirais, qui est ouvert, puisque en fait, on ne sait pas. On est juste sur des constats de fait que le tabagisme chez les jeunes diminue. Et que l'expérimentation de la vape augmente. Mm. C'est-à-dire qu'on a une expérimentation de la vape en 2022 qui était de 56,7%, et là j'ai les chiffres sous les yeux, à 17 ans, qui est donc supérieur à celui du tabac qui est, là je lis encore, 46,5%. Voilà. Donc ça veut dire que 56 pour la vape, 46 pour le tabac. L'expérimentation, les jeunes vont plus aller sur l'expérimentation de la vape que sur l'expérimentation du tabac. Donc voilà, c'est un constat. Et en parallèle, eh bien, il y a moins de jeunes qui fument à 17 ans. Donc voilà. Mm. Ça peut être en effet un moyen pour ne pas rentrer dans le tabagisme, je pense, voilà. Mais ça peut plus tard, on ne sait pas, voilà, être une passerelle comme certains le pensent. C'est partagé, c'est vraiment un débat et on ne peut que tirer des constats. Mais le constat, c'est quand même qu'il y a une baisse de la consommation. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas des jeunes, des générations futures, en 2010, 2032, qu'il n'y ait pas de jeunes fumeurs. Enfin, voilà, que les fumeurs arrêtent de fumer et que les jeunes ne commencent pas. C'est ce que disait la dame, voilà, qui disait, le mieux, c'est de pas commencer. Donc, si les jeunes ne commencent pas, on n'aura pas besoin d'arrêter après, par la suite. Donc, c'est ça le challenge. Et c'est pour ça qu'il y a ce programme de lutte contre le tabagisme, voilà, qui est en place et qui est, tous les 4 ans, je dirais, reconduit. Mmh.
Hein. Et la vape est moins nocive que la cigarette classique?
Alors attention, ça dépend de avec quoi on compare.
D'accord.
Voilà. Si on compare le tabac et la vape, réduction des risques, oui. Si on fume et qu'on vape, on augmente les risques. Mmh. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a la durée du tabagisme. Je pense que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On l'a dit, je redis, je suis tout à fait d'accord que quelqu'un qui fume 3 cigarettes par jour, mais s'il fume plus... On dit 20 ans de tabagisme, hein, pour arriver sur les premières complications quand même. Hein. Donc cette personne-là, si elle fume pendant 20 ans un peu plus, elle va avoir les premières complications, même si elle fume que 3 cigarettes par jour. Quelqu'un qui a fumé comme un pompier, on va dire, hein, 20, 40 cigarettes, mais qui a arrêté au bout de 10 ans, il aura peut-être moins de complications que celui qui a fumé juste 1, 2, 3 cigarettes par jour pendant plus d'années. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on introduit dans son corps, tous les jours, des produits toxiques, et le corps, il doit lutter contre ça. Et donc, ça modifie forcément des choses. Hein. Ça modifie les microbiotes, ça modifie les cellules. Voilà, ça, faut avoir conscience que ça se fait dans le temps. Ce n'est pas immédiat, ça se fait dans le temps. Moi, j'avais entendu, alors je ne pourrais pas vous dire la source, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est... Il y a beaucoup de choses qui sont très abstraites. Et quand on met les choses un peu concrètes, moi, j'avais entendu qu'au niveau de la quantité de goudron, Quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour, c'était équivalent à 2 pots de yaourt de goudron par an.
Ah oui.
Alors là, on se rend compte quand même des choses.
Oui.
Donc quelqu'un qui me dit, bah, moi je fume 10 cigarettes par jour, et là on ne parle pas du tirage, hein. Quelqu'un qui fume normalement, voilà. Les gens qui fument 10 cigarettes, c'est comme s'ils en fumaient 40. Hein. Donc voilà. Mais on va parler de quantité. Si on fume 10 cigarettes par jour, ça veut dire quoi? Un pot de yaourt de goudron. Est-ce que le risque? Voilà. Bah, bien sûr, on se dit, bah oui, 2 pots, un pot de goudron, c'est pas. Voilà. Bah, quelqu'un qui fume 5 cigarettes, un demi-pot de goudron. Voilà. C'est des questions un peu philosophiques, mais
ouais.
En gros, c'est ça qu'on parle. Voilà. Mais il y a 7000 produits chimiques, 70 cancérigènes. Et plus on commence tôt, le poumon, il a maturité quand même à 16 ans. Donc, plus on commence avant, plus quelqu'un qui commence avant 16 ans, il multiplie déjà par 4 les risques d'un cancer pulmonaire.
On n'a pas parlé aussi d'une chose, c'est les inégalités sociales en matière de tabagisme qui demeurent très fortes. Je lisais que les fumeurs quotidiens sont 2 fois plus nombreux parmi les ouvriers, 25% environ, et parmi les cadres, on n'est qu'à 11%. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous voyez dans votre quotidien?
Effectivement, moi, je constate pas mal. On va dans les CFA, ceux qui travaillent, les apprentis. J'ai d'ailleurs des apprentis qui me disent « Oh, ben moi, je fume avec mon patron dans le garage. » Ben, on n'a pas le droit, en fait, à la base. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'inégalités par rapport à ça. Les personnes aussi qui sont au chômage, ben oui, malheureusement, le stress, par exemple, ça va peut-être engendrer plus le fait de fumer, de s'ennuyer, de pas être bien, en fait, tout simplement. Aussi, les personnes dans la dépression, ça peut aussi arriver, malheureusement. Donc, on peut être inégal face au tabac.
Une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est bien sûr les lobbies du tabac, les cigarettiers. Quel est votre regard sur les évolutions qui permettent quand même les lois, qui permettent notamment la loi Evin de ne plus avoir de représentation de spot sur les radios ou en télévision. Mais qu'est-ce qui reste à faire? Et ces lobbies dont on entend parler, mais on n'a pas... Forcément, concrètement, on se dit, on entend parler des lobbies du tabac, mais très concrètement, ça passe par quoi et comment on pourrait...
Si on se dit qu'il y a en effet 75 000 morts à l'année en France du tabac, les jeunes, ils sont vus comme des futurs clients. Hein. Donc, plus ils commencent tôt, ils sont bien malheureux, hein, les entreprises du tabac, parce qu'ils ne veulent pas des morts. Hein, mais bon, le fait, il est là que ça abîme la santé. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de jeunes dans leur filet pour justement, et celles l'ont vite compris, hein, vous savez, ils sont bien entourés. Hein. Donc, ils sont entourés par des publicitaires, par des chimistes, par des avocats. Hein. Mais je veux dire, clairement, ils ont bien étudié, ils ont toujours un train d'avance par rapport à nous. Hein. Nous, on est toujours en train de rectifier les choses derrière. Mais en tout cas, donc en fait, dans leur réflexion, et on comprend, hein, c'est le marketing, hein, c'est comment attirer les jeunes dans nos filets. Et on va proposer, parce que déjà, le tabac, dans un pays développé comme le nôtre, il y a beaucoup de choses, la prévention, etc. Voilà, par quel biais on va pouvoir rentrer. Donc, ils ont vite compris avec les puffs, par exemple, vendus dans les bureaux de tabac, que c'était un biais, des goûts qui faisaient penser quand même au goût fruité que les jeunes aiment bien, un peu acidulé, ça fait de la lumière, voilà. Donc, on voit bien à qui ça s'adresse, tout ça. On a également, alors évidemment, ils disent que non, hein, bien sûr, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais en tout cas, voilà, on voit bien, on n'est pas... Voilà, on voit bien le public qui est désiré, dans le public cible, on va dire. Après, vous avez entendu aussi des produits nicotiniques qui sont vendus. Donc, il y a quelques marques qui sont vendues, en effet, dans les bureaux de tabac aussi, hein, parce que c'est vraiment le lieu qui est aussi mis à la vente. Et qui sont dit, c'est pas du tabac. C'est juste de la nicotine. Ils ont même essayé de faire penser que c'était des produits de traitement de substitution. Là, j'ai entendu, mais je n'ai pas la date, que ça a été acté, il va y avoir un décret pour que ça soit arrêté. Donc, je parle des perles de nicotine et je parle des sachets de nicotine. Bizarrement, ça ressemble à du snus, mais ce n'en est pas.
Ouais.
Et en fait, ils ont essayé. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est nacré. Hein, c'est des petites boules très jolies. Hein, nacré, ça fait des couleurs pop aussi dans l'emballage. Hein, marketing, quand on regarde vraiment le produit. Nous, j'avais sorti une affiche officielle où on ne montre pas le produit parce que ce n'était pas le but non plus. Et donc, c'est vrai que ça donne envie quand on regarde le produit. Et s'ils prenaient 3 petites billes de cette perle de nicotine. C'est très discret en plus. Hein. On peut aller en cours, on met ça dans la joue ou sous la langue. Ça se diffuse en douceur. En plus, c'est un goût fruité. Voilà. Donc, c'est fait tic-tac, hein, effet bonbon, hein, tout simplement, hein, sans dire de marque. Mais en tout cas, ils en prennent trois et c'est l'équivalent d'une cigarette, en fait. Donc, c'est introduire de la nicotine dans leur cerveau. Alors là, on peut parler de passerelle aussi. Hein. Introduire de la nicotine. Donc, c'est habituer ce jeune à avoir de la nicotine de façon ludique pour aller vers où ? Voilà, vers le tabagisme ou quoi ? Parce que oui, on est en réduction des risques là aussi, parce que là, c'est juste, on parle juste de la nicotine, mais la nicotine, c'est la molécule qui rend la dépendance physique. Ouais. Les sachets de nicotine, c'est encore pire, parce que les sachets de nicotine, c'est une grosse concentration de nicotine qui se diffuse. En plus, c'est un petit, voilà, c'est une texture un petit peu abrasive, exprès, hein, pour frotter contre la gencive, pour que le produit puisse rentrer plus facilement. Et là, par contre, c'est un shoot nicotinique qu'ils ont. Il y avait même des cas de malaise hein, chez les jeunes, hein, parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir cette nicotine-là. Et malheureusement, voilà, ça, c'est vraiment l'introduction voilà, vers le besoin nicotinique, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, créer d'autres récepteurs pour qu'ils soient dépendants à un produit qu'ils sont censés aller acheter après par la suite. Quoi.
Sur le sujet, je vous recommande le podcast de Mediapart aux frontières du légal, le tabac, l'industrie ne renonce jamais, qui parle des lobbyistes du tabac, de l'alcool et des jeux et qui contournent les règles en vigueur et se mettent les responsables politiques dans la poche pour perpétuellement renouveler et rajeunir leur clientèle. Amandine, est-ce que tu voulais réagir là-dessus ?
Oui, je voulais juste, par rapport à l'ALPEUF aussi, qui est importante aussi de dire qu'il y a quand même une loi qui est passée le 24 février 2025, dans mes souvenirs. Ça serait bien qu'elle soit mise
en pratique.
Voilà, tout à fait, parce que j'ai encore beaucoup de jeunes qui me disent « Bah non, moi j'ai encore eu au bureau de tabac d'à côté une puff, il n'y a pas de souci », alors que normalement c'est interdit hein, depuis cette date-là. Donc c'est vrai qu'on en parlait avec les petites billes de nicotine, bah, là c'est pareil, la puff, vu que certaines effectivement qui sont sans nicotine, mais les autres qui sont avec nicotine, c'est quand même du sel de nicotine, donc c'est encore plus addictif. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à cette puff et continuer. Moi, c'est ce que je disais, la question juste auparavant, c'était qu'est-ce que je pouvais dire ? C'est de continuer la prévention. C'est vraiment très important de pouvoir continuer à aller dans les collèges, dans les lycées, pour vraiment pouvoir en parler et donner en fait des informations. Tout simplement. Voilà, et sous forme d'activité ou choses comme ça. Mais
ludique.
Voilà, tout à fait. Vraiment, la prévention, on sait que si on investit 1 euro en prévention, ça va répercuter 10 euros, justement, par rapport à l'assurance maladie. Il y aura moins de fumeurs ou d'autres choses. Voilà. Avec le développement des compétences psychosociales, justement.
Vous êtes un peu les deux maillons de la chaîne, à la fois Amandine sur la prévention et Stéphanie bah, sur l'accompagnement au quotidien.
Oui, puisqu'on a la chance aussi parfois d'avoir des opportunités. Les gens, ils viennent, parfois, ils sont hospitalisés pour d'autres raisons, que ce soit la maternité, hein, c'est pas forcément pour des maladies, hein, mais on profite aussi de leur venue sur l'hôpital pour pouvoir aussi le faire la sensibilisation quand même, malgré tout, et puis d'essayer de leur proposer en fait soit des réductions des risques, soit en effet déjà une démarche de réflexion, c'est toujours intéressant. Et puis dans notre service, on a quand même, je travaille pas non plus toute seule, donc on parle aussi de toutes les addictions, hein, dédicace spéciale d'ailleurs à mes collègues, voilà, hein, donc, Christelle, Stéphie et Manuela. Et c'est vrai que on travaille en équipe, on discute aussi ensemble, on propose également du cas par cas, donc on a aussi une psychologue, on a aussi la possibilité pour les gens, j'entendais parler de freins, les freins des fois les gens ils n'ont pas envie d'arrêter de fumer parce qu'ils ont peur de prendre du poids, donc s'ils n'ont pas la compréhension que c'est aussi un manque nicotinique, qu'ils sont pas bien dosés, eh bien peut-être que ça peut les rassurer aussi de dire, la préoccupation, là, c'est votre prise de poids. Est-ce que vous voulez pas qu'on fasse déjà un premier contact avec la diététicienne ? On en parle ensemble, on voit un petit peu les choses. Il faut rassurer que c'est pas forcément une galère, une lutte. Mais la satisfaction d'arrêter est supérieure à la satisfaction de fumer.
Ben, ce sera un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, d'être venues parler du mois sans tabac et du sevrage avec nous sur Studio Zef. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de la radio. Et puis, bonne semaine à toutes et à tous. Et puis, à bientôt sur les ondes de Studio Zef. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.